Bonjour à tous et bienvenue sur le 27e Weekly News. Nous sommes le lundi 28 janvier et avec moi ce soir pour parler de l'info, Sam.
Bonjour.
Et Bruno.
Oui, voilà, bonsoir à toutes et tous. Et ouais, j'ai décidé un peu de laisser tomber mon pseudo de Kinghead. Gardez le prénom Bruno, juste parce que de toute façon, vous le disiez à chaque fois, presque à chaque émission.
Oui, ça arrive de temps en temps les petits dérapages. Cette semaine dans l'info, on a pas mal de gros sujets. On a notamment Justice League of America qui pointe le bout de son nez avec des interviews de Geoff Johns. On parle aussi du management chez DC qui continue d'en faire dans tous les sens. Mais aussi un Free Comic Book Day français. Le gros sujet cette semaine, bien sûr, sera consacré à l'info la plus importante qui a ravagé un petit peu tout le monde geek. C'est J.J. Abrams qui va s'occuper de Star Wars. Du côté du Screen News, nous parlerons des nouveautés annoncées comme le prochain film de la phase 3 de Marvel, le Superman qui prend une classification plus violente, ou encore le studio THQ complètement démantelé. Je suis Steve et vous écoutez le 27e Weekly News. Comme chaque semaine, on va commencer par le traditionnel What's Up. Alors justement, Bruno, ça fait bizarre de t'appeler comme ça en émission.
Ouais, c'est vrai, ça fait un peu bizarre. Un petit What's Up en rapport avec quelque chose que j'ai publié sur le site. Donc je vais parler d'un petit documentaire qui est passé dimanche et dans lequel j'apparais. Et donc avec bien sûr le Comic City qui apparaît également à l'écran aussi, ça fait plaisir. Donc qui parlait un petit peu des comics et en particulier d'un don qui avait été fait de Marvel au musée de la BD d'Angoulême. Et j'y suis allé pour donner un petit peu mon expertise sur la cote des comics. C'était une expérience assez sympa. Et au final, le reportage est plutôt bon, même si j'ai mis quelques petits précisions dans mon article parce qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé lors du montage. Mais
bizarrement, qui ont été coupées. Hein.
Bah en fait, c'est surtout le truc qu'on a l'impression qu'ils disent que c'est le X-Factor qui vaut très cher, alors qu'en fait, c'était un autre comics qu'on avait évalué.
Ah oui, mais ça, c'est du détail de geek. Hein.
Un X-Factor est évalué à 400$, on y croit moyen.
Voilà, c'est ça. C'était plutôt le X-Men 28 de 1967 qui était
intéressant
et qui coûtait plus cher en cote. Mais bon, c'est les affres du montage, quoi, on va dire. Voilà.
Sam, de ton côté, what's up?
Un petit rattrapage de Miyazaki, ce gars-là. Avec Nausicaa et Mona, et je continue à aimer Nausicaa de tout mon cœur, c'est vraiment un film qui à chaque fois me touche comme aucun autre. Donc voilà, donc un petit week-end tranquille et magique.
D'accord.
Ok.
Bah de mon côté, ça a été un week-end de repos et un week-end aussi où j'ai découvert un petit jeu indé dont j'avais beaucoup entendu parler, The Binding of Isaac. Je sais pas si tu connais, toi, Bruno, justement, ce jeu.
J'y ai joué, c'est assez sympa. On balance du caca.
Non, on balance des larmes et on casse du caca. Nuance. Développé par les gens qui avaient développé Super Meat Boy. Un jeu un petit peu hardcore et vraiment un die and retry, mais complètement aléatoire. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il est en plus pas très cher sur Steam.
C'est clair. C'est vraiment
toujours une bonne petite pioche et un jeu avec plein de références vraiment agréable, quoi. Allez, on va passer maintenant à l'actu de cette semaine et on commence avec le Justice League of America de Geoff Johns qui devait débarquer le 6 février. On a appris déjà qu'il était retardé au 20 février. Alors oui, c'est pas un gros retard, il a juste été décalé 2 semaines. Peut-être un moyen de sortir le Justice League tout court et de placer quelques pions supplémentaires. Je sais pas.
Peut-être aussi de laisser souffler David Finch.
Peut-être, ouais.
Bah, je pense que le numéro était déjà prêt, hein, mais à mon avis, c'est plus parce qu'il devait y avoir plus ou moins de gros titres et qu'ils ont décalé par rapport à une semaine où ça tombait un peu plus à plat, ou peut-être par rapport à certains gros titres Marvel aussi qui sortent.
Ouais. C'est peut-être aussi en rapport avec le fait qu'il nous dit que le premier numéro fera 32 pages rien que pour l'histoire principale, et que du coup, peut-être qu'au départ, ils avaient pensé faire un peu plus court avec des backups, mais que le premier, pour vraiment lancer la série... ils ont dit bon, vaut mieux qu'on prenne un peu plus de pages juste pour la série principale, et donc comme dit Sam, peut-être que Finch a dû faire des planches un peu pour un peu plus vite, mais ouais, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est une bonne idée qu'ils soient un peu plus longs, parce que comme tu disais, Steve, souvent avec le Marvel Now, on a eu des issues à des numéros 1 à 20 pages et c'était souvent des moitiés d'histoire et...
Mais moi je suis entièrement d'accord, hein. Revenons au numéro double d'introduction, c'était très bien, un bon numéro double pour commencer une série, il y a rien de mieux. Alors, Geoff Johns s'est un petit peu exprimé sur la série, on a donné un petit peu. Justement, Sam, Bruno, qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu de cette interview ?
Je t'en prie, Bruno.
C'est un peu toujours Geoff Johns qui nous dit un peu toujours la même chose, à savoir qu'il aime bien prendre des personnages un petit peu tombés dans l'oubli et les remettre sur le devant de la scène. Donc, c'est ce qu'il voulait faire avec Vibe, avec Hawkman... Bon, il explique un petit peu aussi le rôle qu'auront Katana et Catwoman, qui seront un petit peu plus dans l'ombre. Et il y a toute une partie que j'ai trouvé intéressante aussi par rapport à Stargirl, qui en fait, on a l'impression qu'elle a été recrutée juste pour pouvoir faire de jolis sourires à la caméra. Et a priori, ça va pas vraiment lui plaire. Donc, on aura peut-être un personnage vraiment intéressant dans le comics. Quoi.
Bah, donc, il revient à ses premières amours avec le personnage de Stargirl. Hein.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
Qui est à peu près la seule raison pour laquelle je vais aller voir ce titre. Et pour le moment, je dois le dire, ne m'emballe pas du tout.
Donc bon, bah voilà. Mais c'était bon, c'est une interview intéressante. Mais bon, je sais que moi, je vais lire le premier numéro, sûr. Mais okay. On verra bien ce que ça donne.
Comme nous tous. Hein. Ouais. On a aussi un complément d'info sur le backup de Martian Manhunter par Matt Kint, justement, qui collabore avec Geoff Johns. Il nous explique qu'il va baser sa série vraiment sur le côté science-fiction et espionnage. Voir Martian Manhunter utiliser son pouvoir de façon qu'on n'avait jusqu'à présent jamais vu. Alors ça, j'attends un petit peu de voir.
En même. Ouais.
Et puis, dire que c'est un personnage aussi super important. Il connaît tous les secrets du DC-verse, autant pour moi. Chose qu'on nous répète aussi depuis le premier numéro de Stormwatch et que jusqu'à présent... Oui, pas eu vraiment de...
À part nous dire qu'ils sont pas prêts, non.
Non, mais j'espère qu'on en saura plus sur cette fameuse splash page qu'on avait eu dans Justice League, où on voyait toute la Justice League se battre contre Martian Manhunter. Donc ça, on sait toujours pas ce qui s'était passé. Bon, après, Matt Kint, c'est un bon scénariste, donc rien que pour ça, c'est intéressant.
D'ailleurs, Steve, Bruno, tu parlais de vibe.
Ouais.
Oui.
Et Steve, tu as un mot à dire dessus?
Oui, alors Vibe, on a eu aussi une interview de Andrew Kreisberg, qui est le scénariste de la série Vibe, et ils ont trouvé un moyen pour essayer de rendre ce personnage intéressant, un moyen qui m'a fait mais vraiment rigoler, c'est de dire qu'il sera le gardien du multivers. En fait, il peut détecter les invasions qui viennent d'autres plans, et notamment il s'est rendu compte de ce pouvoir avec l'arrivée de Darkseid au tout début du New 52 dans Justice League. Comment essayer de rendre un personnage qui n'est pas intéressant au départ intéressant? Moi, franchement, ça m'a fait rire et ça me donne encore moins envie d'aller voir la série.
Ah non, moi je suis pas d'accord. Moi, ça me donne vachement envie parce que j'aime bien cette histoire. Le côté en plus un peu tragique du personnage, puisque il gagne ses pouvoirs lors de l'invasion de Darkseid et il y a son grand frère qui se sacrifie pour le sauver. A priori, la série va tourner pas mal entre la relation entre Vibe, qui s'appelle Paco, c'est ça, je crois.
Paco Ramone.
Paco Ramone.
Non, c'est pas son vrai prénom, c'est son surnom, Paco.
C'est Cisco, sinon. Et son frère, parce qu'il a un autre frère qui a survécu. S'il y a le côté un petit peu famille qui est gardé, ça peut être cool. Après, il y aura beaucoup de liens avec Argus, soi-disant une relation un petit peu façon Man in Black d'un jeune avec un agent un peu plus gradé et un peu plus âgé. Moi, franchement, je suis curieux de lire le premier numéro.
Ouais, moi, c'est pas mon cas. Je le lirai quand même, mais c'est pas mon cas, honnêtement. J'ai vraiment l'impression qu'on essaye tout pour faire de ce personnage un major player, quoi, un personnage de liste A. Mais franchement...
Ils disent à la fin qu'ils voulaient faire un peu ce qu'ils avaient fait pour Booster Gold quand Geoff Johns avait un peu ressuscité le personnage. Donc,
ouais, mais il y a déjà Booster Gold, pourquoi se faire chier?
ouais, mais
pourquoi essayer d'imposer un nouveau personnage alors qu'on en a déjà un dont on ne se sert plus en plus?
Ils sont pas les mêmes pouvoirs et
ouais, on verra. Je trouve ça un peu naze. Enfin bon, continuons avec DC, puisqu'on a appris grâce à une conférence qui s'est tenue ce week-end, enfin une convention, à Atlanta. Stan Lee n'a pas pu venir à cette convention pour des problèmes de maladie, tout simplement, il ne pouvait pas voyager, et ils ont décidé de remplacer le panel de Stan Lee par une conversation Skype avec Scott Snyder, qui s'est prêté au jeu pendant une heure, ce qui était plutôt sympathique de sa part. Et il a lâché deux infos. La première, c'est qu'il n'y aura pas le fameux crossover Flash High Vampire qu'il devait y avoir, finalement c'est annulé puisque High Vampire est annulé, surtout que Savage Hawkman allait être annulé.
Vraiment, pour moi, l'un des plus gros gâchis du New DC, parce que pour moi, Hawkman, ça reste un personnage qui a un gros potentiel, notamment quand on a vu quand même la série que Geoff Johns avait pondue il y a quelques années déjà, malheureusement, ça commence à dater, et depuis, quand on sait qu'ils ont nommé quand même Rob Liefeld au scénario, ça donne un peu l'opinion que DC a du personnage. Donc
c'est
j'espère.
Vrai, ils avaient James Robinson au départ, qui était prévu pour le titre, et finalement ils l'ont remplacé par Tony Daniel dès le départ.
Voilà,
qui s'est complètement un très bon choix. Ouais, je suis d'accord.
Et voilà, ça sera pour moi le fait que Geoff Johns récupère le personnage dans Justice League of America, c'est sans doute une petite vengeance de sa part pour essayer de sauver le personnage.
Ouais, je sais pas. Bruno,
Le fait que Hawkman retourne un peu plus entre les mains de Geoff Johns, moi je trouve ça plutôt encourageant, parce que la série qui portait son nom était vraiment très mauvaise. Donc là, je suis d'accord avec Sam. Bon, c'est un personnage qui mérite mieux.
Enfin, n'oubliez pas quand même que malgré tout, il va falloir qu'ils tiennent compte de ce qui s'est passé dans le New 52 depuis le départ de la série. Et que c'est finalement, le problème, c'est pas tant qu'elle ait été donnée par, enfin, qu'elle était tenue par des mauvais scénaristes. C'est ce qu'ils en ont fait jusqu'à présent. Geoff Johns peut peut-être réparer certains dégâts, mais enfin, il peut pas tout réparer non plus. Il faudrait limite rebooter encore le personnage.
Ouais, je suis pas d'accord, parce que à la rigueur, les bases scénaristiques de la série Hawkman n'étaient pas si mauvaises. Même le fait que ce soit un Tanagarien, tout ça, c'est expliqué dans la série principale.
Moi, mais le départ, j'avais vraiment bien aimé. Bien aimé les premiers numéros, mais c'est juste que ça prenait trop de temps et ça devenait vraiment long et chiant, voilà. Quoi.
Donc, non, mais je pense. Les bases sont bonnes, c'est juste il va falloir faire de nouvelles histoires plus intéressantes, quoi.
De l'autre côté, on a appris aussi que Giffen, qui devait rejoindre Paul Levitz sur la Legion of Super-Heroes, resterait que deux numéros et s'en irait très vite. Son dernier numéro serait le 18, malgré qu'il soit sollicité sur le 19 au mois d'avril. Sam ?
Encore une bourderie du management DC. Pour moi, je l'interprète comme ça. Ils nomment des personnes pour les virer deux épisodes plus tard, ou eux s'en vont parce que le management DC est juste intenable, quoi. Donc c'est quasiment le même sujet chaque semaine.
Ce qui est un peu embêtant, c'est quand même qu'on nous avait teasé le retour du tandem Giffen-Levitz sur la Légion. Ça va être magnifique, ça va être génial. Deux numéros, quoi.
Voilà, ça tombe à l'eau.
Mais c'est un peu comme Hawkman. Enfin, moi, je comprends pas que Hawkman n'ait pas déjà été annulé, parce que les chiffres de vente sont quand même pas très très bons. Legion of Super Heroes, d'accord, c'est un pan très important du DCverse, mais qu'est-ce que ça fout encore là ? On a déjà annulé Legion Lost, mais qui suit encore Legion of Super Heroes ? Moi, perso, j'ai arrêté dès le deuxième numéro. Ouais, d'accord.
J'ai même pas commencé Legion of Super Heroes, du coup, voilà, ça ne tentait pas du tout cette série. Autant Legion Lost, ça allait un petit peu, mais voilà.
Vous venez prouver mon point. On continue avec Sean Murphy, qui a fait quelques petites révélations cette semaine, sur notamment ses futurs projets.
Ouais, tout particulièrement qu'il aurait dessiné du Batman. Si je devais faire un pari, ce serait pour les backups du numéro 900 de Detective Comics, donc qui sera le numéro 16 ou 17, je sais plus, celui qui sort en avril. En tout cas, je sais qu'il avait posté sur son Twitter un dessin de la Batcave. Il dessine bien, donc ça fera plaisir de le voir traiter le personnage de Batman. Et sinon, concernant Punk Rock Jesus et le succès de la série, à la fin, il évoquait peut-être la possibilité de faire une suite, mais que DC, en fait, n'était pas trop d'accord, parce que lui aimerait juste faire le scénario et ne pas dessiner, mais DC, en fait, voudrait qu'il fasse à nouveau dessin et scénario. Donc c'est un peu dommage, parce que ça aurait été bien d'avoir une suite, je sais pas, avec d'autres dessinateurs, comme par exemple des dessinateurs irlandais, ou choses comme ça, qui sont pas mal potes avec lui. Donc, je sais pas. Voilà.
Sam, une suite à Punk Rock Jesus, ça te plairait ?
Je sais pas, parce que pour moi, la première ministre, c'est de conclure de manière logique. Donc, une suite, pourquoi pas, mais il faut avoir la bonne histoire.
Ouais.
Et ce projet sur Batman ?
Une très bonne nouvelle. Parce que pour moi, il a un trait qui est vraiment adapté à l'univers de Batman.
On va passer maintenant chez Marvel avec Bendis, qui a fait une longue interview cette semaine à Newsarama en trois parties, et notamment une grosse partie sur Age of Ultron, où il nous explique à grand renfort de superlatifs que Age of Ultron, ça va être magnifique, ça va être génial, ça va être super important, et que tout ce qui se passe dedans, personne ne pourra deviner la fin, mais que ça aura des grosses répercussions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train d'essayer de nous le survendre, ce Age of Ultron ?
Non, carrément.
Est-ce qu'on s'en fout pas un peu déjà de Age of Ultron à la base ?
Pas vraiment, mais au moins les 5 premiers, moi je dis, je vais donner sa chance à ces numéros-là, mais la suite, j'ai l'impression que c'est vraiment, on tire sur la corde, quoi.
Moi franchement là je suis assez perplexe, quoi. J'ai envie d'aimer la série, j'ai envie de découvrir le truc, j'ai envie d'être super surpris par un crossover, dire oh putain c'est le meilleur crossover qu'on ait lu depuis ces 10 dernières années, mais j'y crois pas, je peux plus y croire, quoi. Ça me paraît trop gros.
Le problème c'est que Bendis a écrit trop D20 et on sait comment il fonctionne, donc c'est pour ça que ça va être dur d'être vraiment surpris. Et comme Bruno, ça sera uniquement les 5 premiers numéros pour moi, Brian Hitch.
Puis de plus, nous promettre des répercussions dans Guardians of the Galaxy, dans plein d'autres séries. Ça me paraît un peu facile comme argument de vente, quoi.
Mais vite fait, le truc juste qu'il dit, c'est qu'à la fin, il y a que lui et 2-3 personnes qui savent comment ça va se finir, et qu'a priori, ça va surprendre tout le monde. Donc il essaye de faire le mystère sur ça, mais bon, à mon avis, c'est exagéré.
Très vite, pour finir les brèves, Marvel Max, la série, la ligne pour adultes, arrive enfin sur Comixology. Ça fait des années que les gens la réclament. Enfin, vous allez pouvoir lire Marvel Max sur tablette, pour ceux qui ont envie de découvrir le côté digital. Toujours dans le digital, Comixology Europe va débarquer. C'est quelque chose qui devait être annoncé dans une conférence de presse à Angoulême dans quelques jours, avec Delcourt. Bon, bah, ça a déjà filtré sur Bleeding Cool.
Ouais, ça, comme quoi les secrets ne restent pas très longtemps. Bon bah ce sera un siège qui serait a priori à Paris, donc de Comixology. Donc disponibilité de titres en anglais et peut-être même dans d'autres langues sur la plateforme Comixology.
On en reparle de toute façon puisqu'on suivra cette conférence de presse quand on sera à Angoulême. X-Files va débarquer chez IDW, il récupère la licence pour refaire des films, des comics pardon.
Ouais, bah peut-être même un ongoing. Pour l'instant, on n'a pas encore l'équipe créative, mais ce serait une série qui prendrait place après le deuxième film en fait. Donc pourquoi pas, si c'est, je sais pas, retrouver Fox Mulder et Dana Scully, pourquoi
tout dépend de l'équipe créative.
Voilà, c'est ça.
Et enfin, on a appris aussi que il y allait avoir un Free Comic Book Day, enfin qui ne s'appellera pas comme ça, qui s'appellera 48 heures de BD, mais version française, dans lequel on aura plusieurs exemplaires totalement gratuits. Une bonne initiative finalement.
Très bonne. Tout à fait, ouais.
Parce que ça coûte légèrement cher, les BD.
Ouais, non, mais c'est
très
bien.
C'est le 5 et 6 avril, ouais.
Voilà, pour ceux qui ont envie de découvrir de la BD franco-belge gratuitement, peut-être se mettre un nouvel univers, bah pourquoi pas. Je vous cite très très vite les titres. On a Picobog, Le Royaume, volume 1, Ernest et Rebecca, volume 1, Secret de Girls, Pascal Brutal, volume 1, Le Tueur, volume 1, La Nouvelle Bande à Bambou et Sienna, volume 1. Voilà les titres qui seront disponibles. On va passer au gros sujet cette semaine maintenant, et c'est l'annonce du réalisateur de Star Wars. Star Wars 7, c'est J.J. Abrams. Alors, j'ai envie de commencer en disant J.J. Abrams, gros menteur. Puisque, rappelez-vous, pour ceux qui écoutent l'émission chaque semaine, au mois de décembre, on avait annoncé que J.J. Abrams avait clairement dit à tout le monde qu'il ne toucherait pas à ce projet, puisqu'il était déjà engagé sur la franchise Star Trek, et qu'en plus c'est un univers qu'il affectionnait particulièrement, et qu'il préférait le découvrir assis dans son siège dans une salle de cinéma, plutôt que devoir essayer de contenter les milliards de fans avec le moindre petit détail qui vont lui tomber dessus, et puis que voilà, c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de faire.
Bah,
et bien finalement, c'est lui.
Mais ils lui ont fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser.
Non, ils ont fait offre que lui peut pouvoir refuser.
Moi j'ai envie de dire déjà, je vais faire mon gros troll, mais à tous les fans de Star Wars, vous allez bientôt comprendre l'effet que ça fait d'avoir un univers qui est complètement saccagé, complètement rebooté.
Moi je suis pas d'accord, moi j'ai beaucoup aimé le Star Trek de J.J. Abrams.
Moi je suis d'accord avec Sam, pourtant j'aime bien aussi les anciens Star Trek, hein. Là je me suis refait la trilogie de Khan hier, et c'était aussi très très bien, mais j'ai bien aimé le reboot. Moi ce qui me gêne,
j'aime bien le film, comme j'ai dit c'est juste le reboot de l'univers qui me dérange. Mais
donc là je te rejoins.
Mais J.J. Abrams ne va pas rebooter l'univers Star Wars, puisque là il est censé vraiment repartir sur un épisode 7 qui se passerait après les deux premières trilogies. Donc
dans lequel on apprendra que finalement le père de Luke Skywalker n'est pas Darth Vader, mais en fait Obi-Wan.
Non, mais il ira pas aussi loin.
Non, bah, non.
Je dirais bonne nouvelle, parce que de toute façon on sait déjà que ça ne sera pas aussi bien que l'épisode 4 et 5, ça on le sait déjà, et ça ne sera pas aussi mauvais que l'épisode 1 à 3. Donc déjà on a déjà ça de gagner.
Non, on sait pas, mais moi je suis un petit peu déçu, parce que je veux dire, justement j'avais été satisfait par les films Star Trek, et se dire que c'est le même réalisateur qui va faire une autre franchise de science-fiction comme ça, avec des combats spatiaux, tout ça, je me dis du coup on aura deux fois la même identité un petit peu visuelle, la même façon de réaliser des films pour un sujet à peu près proche, et j'aurais préféré voir un autre réalisateur apporter sa touche personnelle à Star Wars, quoi, parce que...
Oui, mais les univers sont tellement différents que ça m'étonnerait vraiment qu'on ait une espèce de proximité en termes d'identité visuelle.
Je pense que
J.J. Abrams ira faire autre chose.
J'espère.
C'est vrai qu'il a adopté un parti pris visuel sur Star Trek qui était volontaire, qui est assez critiqué d'ailleurs chez certains fans, les fameuses lentilles qui font des gros flashs de lumière sur le truc.
Let's flare.
Voilà, mais qui ont tendance à énerver beaucoup de gens. Bon, personnellement, ça m'a jamais dérangé. Mais je pense que sur Star Wars, il adoptera quelque chose de beaucoup plus sobre. Donc, tant mieux.
De toute façon, c'est clair et net qu'on va avoir cette comparaison entre les films et entre les franchises. Comment il a réalisé Star Trek, comment il a réalisé Star Wars. Il y aura forcément des points de comparaison qui seront faits. Logique, c'est le même gars. Est-ce que c'est aussi un moyen, peut-être pour Disney, d'éviter peut-être cette guerre entre les franchises, puisqu'on sait très bien que, enfin, cette guerre, façon de parler, mais il y a quand même d'un côté les Trekkies, de l'autre côté les, je sais pas d'ailleurs comment on appelle les fans de Star Wars.
Ils ont pas de nom. Ils ont pas de nom, mais les fans de Star Wars, mais ouais. Enfin, moi, je trouve ça un peu dingue. Enfin, je pense que Paramount, ils ont dû faire la gueule quand ils ont appris ça, parce que, je veux dire, même le deuxième film n'est même pas sorti de Star Trek. Déjà, tout le monde parle de J.J. Abrams plutôt sur Star Wars que sur le nouveau film. Je sais pas si ça a vraiment attisé un petit peu les colères entre les deux franchises. À mon avis, ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu.
Bah, de toute façon, Paramount a déjà confirmé que J.J. Abrams restait associé au moins en tant que producteur pour Star Trek 3. Puisqu'il y aura un Star Trek 3 et ça continuera après, sachant que J.J. Abrams a quand même une grosse équipe autour de lui, de producteurs, de réalisateurs, de scénaristes, donc
bah, toute la franchise, toute la boîte de production Bad Robot, quoi, hein, tout simplement.
Donc, voilà, oui, donc c'est des gens franchement qui depuis 10 ans font en général du bon boulot, donc et parfois de la grosse merde.
L'autre souci que ça pose aussi pour Star Wars, c'est que J.J. Abrams n'ayant pas encore terminé de bosser sur Star Trek Into Darkness, Star Trek 2. Bah, finalement, la sortie du film ne se fera peut-être pas en 2015 et elle serait peut-être repoussée à 2016.
Bon, c'est peut-être pas un mal, hein, parce qu'il y a déjà tellement de trucs. Il y a déjà tellement de trucs qui sont annoncés pour 2015.
Je pense que Disney s'en fiche un peu parce qu'ils vont déjà s'en ramasser plein les fouilles avec Avengers 2. Bon, si Star Wars c'est l'année suivante, c'est pas grave.
Laissez-nous souffler un peu en 2015. Gardez-en pour 2016.
Oui, c'est clair. C'est clair. À moins qu'il y ait peut-être une autre fin du monde de prévu en 2016, et c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient sortir tous les films en 2015.
Non, je pense
pas. Mais qu'on nous ait rien dit jusqu'à présent. Je vais en profiter pour ajouter, puisque Bunny n'a pas pu être là ce soir pour l'enregistrement, mais il m'avait fait part de son bash de cette semaine, et justement, son bash de la semaine, c'est par rapport à J.J. Abrams, qui trouve qu'on ne peut plus voir une seule franchise de science-fiction sans son nom associé, et que pour lui ça commence à le gonfler un petit peu, parce que justement SF égale J.J. Abrams, et qu'il y a peut-être d'autres réalisateurs qui seraient peut-être pas plus compétents, mais au moins tout aussi compétents pour réaliser quelques trucs. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Bruno.
Ouais.
Après, sachant qu'il est aussi très présent au niveau de la télé, ouais, sur les séries SF qui vont arriver à la rentrée, qui s'annoncent assez intéressantes.
Ouais, bah si c'est comme Révolution.
Non, ça m'intéresse pas.
Mais là où je suis rassuré, c'est que bon, là, Abrams, ils l'ont pris pour la réalisation, bon, pour la production sans doute aussi, mais ils ont quand même choisi un scénariste qui n'est pas J.J. Abrams, c'est quelqu'un d'autre. Donc, ça c'est bien, parce que les histoires de J.J. Abrams parfois partent très vite dans de super bonnes idées au départ, mais se terminent un petit peu en autre boudin par moment. Et donc là, le fait d'avoir mis Michael Arndt, qui est un plutôt bon scénariste sur la franchise, ça c'est une bonne nouvelle.
Sachant que Laurence Kasdan, qui a écrit le second, reste consultant sur le 7 et scénariste sur le 8 et le 9, il me semble.
Ouais. Ils reprennent un petit peu des anciens. Donc ça c'est bien aussi pour la continuité.
Ils ont fait leur preuve. Tu vois, George Lucas, c'est comme ça qu'on fait.
c'est un moyen. Bah, on verra justement, parce que de toute façon, on sait très bien que malgré tout, George Lucas reste consultant. Donc, est-ce que le courant passera entre les deux aussi, entre cette ancienne génération et cette nouvelle génération, si on peut dire. C'est un peu facile d'être réducteur comme ça, mais c'est un petit peu le cas quand même. Bon, bah, moi, je sais pas. Honnêtement, je suis quand même un petit peu déçu que ce soit Abrams. J'aurais presque préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Histoire de montrer que il n'y a pas que lui, quoi.
En même temps, son univers, c'est Star Wars et Star Trek. Pas non plus sur toutes les franchises SF. Ou alors, on n'a pas assez de SF au cinéma. Ce sur quoi je suis d'accord.
Ah ben ça, c'est clair. Hein. Enfin, je veux dire, dans les films qui sont sortis récemment où t'as des batailles spatiales, je sais pas, j'en nomme pas, quoi. Enfin, il n'y a que Star Trek, il y a Star Wars, et puis c'est tout, quoi. Donc, bon. Ouais, moi aussi, un petit peu
cinéma,
déçu.
Ouais. Au cinéma, moi, malheureusement, ouais.
Tourne en rond,
déçu que ce soit J.J. Abrams, mais en tout cas, le film est sur les rails, on sait qu'on aura dans 2 ans une bande-annonce et tout, et là on pourra se faire vraiment une idée.
Eh bien, on va passer maintenant à la partie Screen News, hein. C'était le petit pont facile quand même, et on va commencer avec les séries télé, le pilote de Six Gun, dont on a entendu parler au Comic-Con 2011 quand même, finalement devait être réalisé par Sci-Fi, n'a pas été continué, et maintenant serait dans les mains de NBC.
Ouais, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un titre qui a très bonne presse, très bonne réputation. C'est dans le milieu du western, mais il y a un petit peu de paranormal. Ça ferait une bonne série télé, je pense, et ça fait plaisir si ça se concrétise.
Ouais, bon, bah on verra. Sam, c'est quelque chose qui t'intéresserait de voir s'il se gagne en série
télé? Ben, j'ai pas encore abordé la série en comics, donc je peux pas dire.
D'accord. Bon, bah, comme ça, c'est une question qui fait plouf.
Non, mais voilà, j'ai pas encore d'avis sur le sujet.
On va passer à l'autre série, et celle qui est le sujet de toutes nos attentions en ce moment, la série S.H.I.E.L.D. de Marvel, avec Joss Whedon à la production. Qui devrait débarquer en septembre sur ABC, la chaîne affiliée à Disney, bien sûr, logique. On a eu quelques petites vidéos qui sont tombées cette semaine. Est-ce que vous les avez regardées?
Moi, non, j'avoue,
j'ai juste vu les photos.
Plus, ouais.
J'ai juste vu les photos avec les gros camions S.H.I.E.L.D.
Je sais pas, moi, j'étais pas tenté par ces vidéos.
Non, enfin,
j'attends une vraie bande-annonce, moi.
J'ai pas envie de me faire spoiler. Mais par contre, c'est la série attendue pour moi de la rentrée 2014. 2013, je veux dire.
Pareil pour moi, hein. C'est vrai que j'étais pas tenté par aller voir les trucs, j'avais pas envie de trop de spoil, je préfère attendre une vraie bande-annonce, histoire de voir ce que ça donne, parce que, bon, c'est sympa, hein, toujours des mecs qui expliquent comment ils ont décidé de constituer la série, comment ils ont décidé de faire tel ou tel choix, mais avant d'avoir ces explications-là, ayons au moins une bande-annonce, qu'on sache à quoi ça ressemble visuellement, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça bouge. Ils mettent vraiment l'accent sur la communication sur cette série, parce qu'ils savent très bien que c'est un projet énormément attendu. Là, on en a vraiment pour son compte. De l'autre côté, on a appris aussi que Cobie Smulders, qui jouait Maria Hill dans Avengers, pourrait revenir dans la série et faire des apparitions en tant que Maria Hill, toujours.
À voir comment ça va s'arranger avec son agenda sur How I Met Your Mother, qui revient pour une saison 9. Putain, espérons qu'ils arrivent à la terminer cette série parce que ça commence à durer là. Bah, petit commentaire en passant.
Techniquement, il est censé rencontrer la mère cette saison.
Voilà.
Ça a été annoncé dès le premier épisode de la saison 8.
Moi, j'attends de voir pour
pitié,
le croire.
Pitié.
Mais c'est une bonne nouvelle, oui, parce que bon, c'est un personnage qui était dans le film Avengers. Ça ne serait que logique qu'elle intervienne dans une série S.H.I.E.L.D. qui se passerait après Avengers, justement. Donc bon, à voir. Hein.
Bah, reste à voir s'il s'agit de flashbacks par rapport au film et de choses qui se sont passées avant la bataille de New York ou pas. Parce que c'est pareil, on nous avait promis Coulson dans la série. On se demande un petit peu comment ça va être possible. Bon, bah, on verra.
Il est transféré dans le corps de Maria Hill.
C'est un life model decoy.
Il y a énormément de suppositions sur cette série. Pour le moment, on n'a pas encore grand-chose et ça reste quand même vraiment la série qui fait parler. Pendant cette saison, quoi. Enfin, au lieu de s'intéresser aux shows qui sont actuellement développés, on s'intéresse à celui qui ne l'est pas encore et dont tout le monde attend.
Bah, faut dire, en ce moment, il y a niveau nouveauté, en termes de TV, il n'y a pas grand chose de vraiment excitant.
Il y a de bonnes surprises et il y en a une dont j'en parlerai sur le site internet avec un article. Une série qui s'appelle Utopia. J'en reparlerai.
Bah, moi, cette saison, c'est pareil, j'ai pas été convaincu par grand projet. Le Chicago Fire de Dick Wolf. Voilà, mais bon, c'est pas non plus une série méga fantastique, ça reste un bon petit show sympathique, mais voilà, j'ai pas été bluffé cette saison par des grandes nouveautés.
Voilà. La rentrée 2013, par contre, s'annonce beaucoup plus prometteuse. Ouais. Bah, c'est une année creuse, on va dire, 2012.
Tu sais,
et
2012, au vu des projets, ça s'annonçait très bien, et finalement, il n'y a pas grand chose qui était intéressant, quoi. Il y avait beaucoup
de nouveautés. Franchement, au final, la saison 2012, rien qu'à la vue des projets, je me doutais que ça serait mort.
Je suis mauvaise langue, il y a aussi Vegas, que j'aime plutôt bien, avec Michael Chiklis j'ai oublié son nom, et merde, ça va pas me revenir. Voilà une série qui se passe sur le Vegas des années 60 avec d'un côté un flic qui était infirmier, qui est recruté comme ça pour devenir shérif de la ville parce qu'il a des méthodes assez en avance sur son temps en termes de découverte de crimes, et puis de l'autre côté Michael Chiklis, gérant d'un casino, qui est très limite mafieux, enfin même pas limite, hein, complètement mafieux. Cette espèce de bataille entre les deux avec de très très bons acteurs. C'est pourquoi je retrouve pas son nom. C'est un acteur
ça, je pourrais pas t'aider.
Wikipédia est ton ami.
Oui, là en plein enregistrement, ça devient difficile. Enfin bref, un acteur très connu qui a fait beaucoup de films et plutôt pas mal. En plus, une très bonne reconstitution du Las Vegas des années 60. On a aussi, c'est la foire à la perte de mémoire ce soir, celle qui jouait dans Matrix, qui faisait Trinity, qui joue dedans. Vous ne voyez pas non plus, c'est pas grave.
Carrie
Fisher.
Oui, voilà.
Non, ça c'est
Carrie
Fisher. C'est ça. Enfin, on a un très bon casting pour cette série et une très jolie reconstitution. C'est vraiment pas mal. On va continuer sur les films Marvel, puisque, bon, en tout cas, pas Marvel Studio pur, mais Marvel quand même dans les licences. Days of the Future Past va, donc le X-Men First Class 2, hein, qui s'appelle donc maintenant X-Men Days of the Future Past. va faire revenir certains des personnages qu'on avait vus dans la précédente trilogie, notamment Sean Ashmore, Ellen Page et Anna Paquin, qui vont reprendre leur rôle.
Bah tant mieux.
Ouais, ouais, ça après avoir annoncé Patrick Stewart et Ian McKellen, ça reste un peu sur la même logique.
Et Hugh Jackman.
Ouais, et Hugh Jackman.
S'ils pouvaient le sous-titrer, en fait, c'est Days of Future Past, mais en fait, on annule X-Men 3, ça serait un sous-titre génial.
Ouais, ça serait pas mal.
Retour
ça.
Dans le passé pour annuler X-Men 3, ce n'est jamais arrivé.
Non, moi, ce que je trouve dommage, par contre, c'est qu'ils n'ont pas confirmé le retour de Emma Frost et de celle qui jouait Moira.
January Jones.
Ouais, et puis celle qui jouait Moira aussi dans First Class. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon. Non, mais c'est bien. En tout cas, il y aura un casting intéressant. Maintenant, il faudra pas qu'ils fassent des conneries avec le scénario, quoi. Mais
à voir. Bon, en tout cas, ça s'annonce intéressant.
Mais moi, j'ai un peu de mal à voir comment ils vont réussir à développer, puisqu'on sait très bien que First Class se passe bien avant. Comment ils vont lier les personnages qui sont déjà très jeunes dans la franchise X-Men qui se passe des années plus tard, la première trilogie, avec ces anciens qui ont peut-être 30 ou 40 ans, qui sont 30 ou 40 ans plus jeunes, quoi. Ça va être assez étrange, bon.
Je sais pas, ouais.
En tout cas, ça laisse la spéculation encore une fois et on a envie d'aller voir pour se dire, bon, comment ils vont réussir le truc? Est-ce qu'ils vont se foirer ou est-ce que ça va marcher? Le premier était une telle bonne surprise qu'on peut quand même lancer le bénéfice du doute.
Ouais. Je reste très mitigé sur ce film.
Oui, je sais que toi, tu n'es pas un grand fan du First Class.
Non, pas. Je dis pas que c'est mauvais, mais ça ne va pas. Voilà. Pour moi, tout était assez prévisible.
Ils ont aussi annoncé la date de sortie. Moi, je crois que je ne l'avais pas vu. C'est 18 juillet 2014.
18 juillet 2014, effectivement. Voilà. On continue avec la phase 3 de Marvel qui commence à faire parler. Donc là, on est de retour dans les Marvel Studios, vraiment. On avait donc cette première phase qui culminé avec Avengers. On est maintenant à la phase 2 avec le début Iron Man 3 et puis normalement la fin de cette phase 2 sera Avengers 2.
Ouais.
Et là on commence à nous parler de la phase 3, ce qui se passera encore après, donc qui se terminera vraisemblablement par un Avengers 3. Et le premier titre annoncé serait donc on avait déjà Ant-Man.
Ouais.
Qui est en développement, mais le premier nouveau titre annoncé serait Doctor Strange.
Ça fait un moment que c'est dans les germes, donc pourquoi pas.
Alors, moi, Doctor Strange, moi, ça fait plus de 10 ans que j'entends parler, même 15 ans que j'entends parler d'un film Doctor Strange.
Je préférerais un Black Panther, personnellement.
Je sais pas. Non, Doctor Strange, pourquoi pas, s'il tourne la troisième vague sur plus vers le mystique, après, peut-être faire venir Iron Fist ou choses comme ça, ça me plairait bien. Mais parce que là, la deuxième phase, c'est le galactique. Troisième phase, le mystique, pourquoi pas.
Alors, par contre, on a appris quand même que seraient embauchés pour le scénario les gens qui ont écrit le dernier Conan avec...
Donc non.
Vous savez...
avec le gars de Game of Thrones.
José de Momoa. Mais j'ai un problème avec les noms ce soir, qu'est-ce qui se passe? Donc Thomas Donnelly et Joshua Oppenheimer pour donc écrire le scénario, mais que le budget serait vraiment très peu puisque ça équivaudrait entre 20 et 40 millions de dollars.
Oula, ça sent le film direct en DVD, ça.
Sachant que Captain America ou Thor avaient entre 140 et 160 millions de dollars de budget.
Voilà. Les effets spéciaux dans Thor, je les cherche encore.
Bah, en même temps, les effets spéciaux de Doctor Strange sont relativement simples, on va dire, si on s'inspire de la période Ditko, quoi. On fait tout tourner sur fond vert et on rajoute des effets spéciaux dignes de la PS1, tout psychédélique dans le fond. C'est pas ce qui va coûter le plus cher, en fait, je pense. Puisqu'on n'aura pas forcément besoin, bon, on aura quand même des créatures, des choses comme ça assez étranges, des démons et tout. Mais en termes de décor, on n'aura pas besoin de se faire super chier, quoi.
Vu la façon, pas très bon.
Tu filmes en studio la partie Himalaya, tu sais, dans le fond d'une vieille grotte avec un truc en polystyrène, là, tu tombes
en papier mâché.
Tu tombes sur les murs et les trucs qui bougent. Enfin,
je tourne ça au Canada surtout.
Non, mais vu l'argent qu'ils vont se faire avec Avengers 2, je pense qu'ils augmenteront le budget hein, si jamais ça se fait. Et puis bon, au niveau des scénaristes, je pense qu'il faut pas trop se faire de soucis parce que d'ici là, ça se trouve ils vont en changer comme souvent. Donc.
Et puis Joss Whedon, hein, consultant.
Voilà.
Ouais, enfin bon, le mec est consultant partout maintenant. A-t-il vraiment le temps de consulter? Bah, entre la série Shield, entre les films qu'il est en train de préparer, puisqu'on sait déjà qu'il travaille activement sur le scénario de Avengers 2, plus tous les autres projets, enfin, le mec, je vois pas comment il peut avoir le temps de consulter pour quoi que ce soit. T'sais, il doit regarder le truc, il doit lire en diagonale. Ouais, c'est bon, allez-y, faites-le, je m'en fous.
Je te rappelle que c'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur 3 séries télé en même temps. Donc.
Ouais, mais là quand même, sur Avengers, il a une méga pression, quoi. Moi, j'aurais quand même aimé voir plus Joss Whedon réaliser Star Wars 3, quand même.
Star Wars 7, tu veux dire?
Ouais, non, non. Pas moi.
Ah si, bah, il a déjà fait ses preuves avec l'univers SF quand même.
Ouais, sur Serenity.
Oui, mais justement, moi je veux voir d'autres personnes, d'autres réalisateurs.
Non, non, mais il faut cloner Joss Whedon, c'est la bonne solution.
C'est peut-être le meilleur moyen, effectivement, pour avoir du Joss Whedon partout. On va passer maintenant à la franchise DC au cinéma, et on a appris cette semaine que Man of Steel, le prochain film Superman, serait PG-13, ce qui veut dire donc, en équivalent français, interdit au moins de 12 ans.
Aux États-Unis,
c'est interdit au moins de 13. Alors, franchement, moi j'ai du mal à y croire, quoi. Au vu de ce qu'on a appris, donc c'est le MPAA qui gère la classification des films aux États-Unis, il y aurait d'intenses séquences de violence science-fiction, de l'action et de la destruction, et même un langage assez, pas adapté à un jeune public inférieur au moins de 13 ans.
Bah ça va péter.
Ouais. Non, mais pourquoi pas. Mais après, moi, je trouve ça dommage presque parce que c'est Superman. Pour moi, c'est une franchise qui serait un peu plus ouverte à un peu tout public. Et voilà, c'est le héros aussi des plus jeunes. C'est le fait d'en faire un truc un peu trop sombre, un peu trop violent, ça me gêne un petit peu.
Bah, en même temps, t'as Zack Snyder qui dirige et t'as Christopher Nolan qui a la production. Tu veux que ce soit quoi?
Ouais. Non, mais
ça
je
va
sais
pas
bien.
Mineux,
puis
mais...
les Batman aussi, mais... Nolan était pas du certain, non?
Mais je me rappelle plus justement que.
Il me semble.
Je pense que Dark Knight, oui, il a dû l'être parce que vu comme c'était quand même un petit peu violent. Mais bon, après moi, ça me choque pas que un truc soit violent, mais Superman. Ça me gêne
en même temps
plus.
C'est Zod hein, l'ennemi du film donc ça va pas être des papouilles des bisous
ouais je sais mais parmi les choix de Snyder c'est pas le pire qu'il ait fait moi ce que j'ai encore du mal à me remettre du fait que Jimmy Olsen sera une fille dans le film donc
oh, pff, franchement ça je m'en tape
bah, pas moi
au point où il en est. Moi, honnêtement, Man of Steel, ça m'intéresse. Mais pas du tout. J'ai pas envie de voir du Superman façon Nolan. J'ai pas envie de voir du Superman version Snyder, surtout. Donc, franchement, ça m'intéresse pas, ce film. Vraiment.
Ah, moi, si.
Pour moi, enfin, à mon goût, hein, j'en sais rien. Hein, c'est facile de critiquer sans avoir vu. Donc, c'est pour ça que je réserve un jugement et je verrai par la suite. Mais j'ai pas envie de voir le film. Et pour moi, ça c'est un désastre annoncé, quoi. Mais bon.
Ah non, moi ça s'annonce bien.
Moi je donnerais sa chance, mais j'ai un petit peu peur.
De toute façon, on en reparle quand ça sortira.
Trois personnes, trois avis différents.
Très bien.
Ouais. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est ça qui est intéressant. Et comme je dis, moi je réserve le fait de pouvoir changer mon avis, hein, bien sûr, puisque au vu de ce que j'ai appris.
Bah, tu changeras ton avis, je te l'annonce.
Les bandes annonces, etc., ça m'intéresse pas. Maintenant, peut-être que le film me plaira. Je dirais que c'est la meilleure chose qu'on ait jamais vue au cinéma en termes de Superman. Mais honnêtement, j'y crois pas une seconde. Déjà que j'aime pas Zack Snyder, donc. Voilà, ça me paraît difficile, quoi. Enfin, j'aime pas sa façon de réaliser, en fait, c'est surtout ça.
Comme tout le monde.
On continue justement sur Superman. Rappelez-vous, dans les années 90, on avait parlé d'un possible film Superman, Superman Lives, par Tim Burton, avec Nicolas Cage dans le rôle de Superman. Et ce film n'a jamais vu le jour. On peut retrouver sur YouTube en cherchant des vidéos de Kevin Smith qui explique un petit peu les raisons pour lesquelles le film ne s'est pas fait. Il avait travaillé sur le scénario. Un fan de ce film, John Schnepp, a décidé de lancer un projet Kickstarter pour faire un documentaire sur ce film. Les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait, tout simplement. Il y a toute une petite vidéo explicative. Où il explique qu'il a, depuis des années et des années, il rachète, ou il essaie de se procurer tous les storyboards qui ont été faits pour le film, tous les drafts, tout, pour essayer justement de, c'était quelque chose qui l'intéressait. Et il a envie de faire un documentaire sur pourquoi ce film s'est pas fait, qu'est-ce que ça aurait pu faire, qu'est-ce que ça aurait pu donner, essayer d'interviewer tout le monde, tous les acteurs participant à ce film-là, et justement nous donner peut-être une idée de ce qu'aurait pu être ce film. Un Superman Tim Burton, ça aurait pu être peut-être très intéressant, comme ça aurait pu être totalement ouf, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais moi, ça m'intéresse vachement. Moi, j'aimerais beaucoup voir ce genre de documentaire. Surtout que qu'on a déjà vu énormément de concept art et ça avait l'air complètement barré. Et là, en interviewant un peu tous les membres qui ont participé à cette conception, ça sera intéressant de voir leur avis, quoi. Moi, ça, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Je rappelle que dans le film, l'ennemi devait quand même être Brainiac. Hein.
Ah ouais, enfin Brainiac. Rien, depuis le temps qu'on voulait qu'il soit méchant dans un film Superman. Quoi.
Et alors, John Schnepp a dit qu'il a un but de 58 000 dollars, je crois. 58 millions, peut-être, je sais plus.
Non, attends, c'est un peu moins, c'est 98 000 dollars.
Ah, c'est des mille. Je savais plus si c'était des mille ou des millions, tu vois.
Enfin, 98 000 $. Actuellement, il a 33 000 $ qui ont été donnés sur Kickstarter. Donc,
et s'il dépasse, s'il arrive à dépasser ce budget, il essaiera de produire certaines scènes. Bon bah voilà, avec des moyens un peu plus amateurs, mais en tout cas de nous montrer quelques scènes à l'écran.
Ah, ce serait donc, parfait si en plus il arrive à embaucher Nicolas Cage. Ça, ce serait magnifique.
Si jamais c'est un projet qui vous intéresse, rendez-vous sur Kickstarter et puis n'hésitez pas à donner un petit peu. Alors il promet donc bah, pour ceux qui donnent hein, le DVD du documentaire ainsi qu'un t-shirt. Bon, voilà.
À voir, à voir.
Ça peut être un projet très intéressant. On va passer maintenant à la partie jeux vidéo de notre partie Screen News. On a appris que DC Universe Online n'est pas mort. Et oui,
non,
il
non,
va sortir un DLC.
Il continue à sortir des DLC. Le dernier DLC, ça concerne tout ce qui est la maison, enfin la comment on appelle ça, la base secrète des super-héros où on peut en fait construire sa cave, sa Batcave un peu et décorer l'intérieur, avoir un sidekick. Bon. Ils essayent tant bien que mal de faire vivre le jeu. Moi, j'avoue, j'avais joué au début avec Jean-Lô, c'était très sympa, mais j'ai complètement décroché. J'ai pas dû relancer le jeu depuis plus de 6 mois maintenant.
Et ben, quand tu vas vouloir y jouer, tu vas avoir un sacré paquet de mises à jour.
Ouais, bah surtout que là, c'est
tu
des DLC
une heure
qui sont
à tout télécharger.
C'est des DLC payants en plus, donc ça m'intéresse pas puisque maintenant je suis plus abonné dessus. Donc bon, en tout cas, ils essayent de faire vivre le jeu.
Oui, voilà, ça, au moins ça continue, quoi.
Voilà,
et
pour
je
ceux
pense
qui
qu'ils
sont...
ont intérêt à le faire continuer, puisqu'on sait très bien qu'il y a le jeu Marvel Universe Online qui va arriver.
Ouais.
Il est peut-être temps de faire un petit coup de promo sur la franchise pour pas que le jeu ne meure.
Exactement.
En tout cas, ça arrive demain, à l'heure où on enregistre, donc ça sort le 29 janvier. Que si jamais vous continuez de jouer, ou si jamais vous avez envie de vous y remettre, peut-être le fait de pouvoir construire votre repère, hein, que ce soit votre cave de gentil, votre Batcave ou votre base secrète de scientifique fou, bah vous avez tout ce qu'il faut avec ça.
Ouais.
Toujours sur le jeu vidéo, il y a eu un premier aperçu au niveau de la presse du jeu Deadpool qui doit sortir donc un peu plus tard cette année, hein, au mois d'avril, si ma mémoire est bonne. Donc les studios, les différents organismes de presse ont pu aller voir ce jeu tourner. Ils n'ont pas pu jouer, ils ont juste pu le voir tourner, une démonstration faite par le studio de développement High Moon Studios.
Mm-hmm.
Et on a appris donc que c'était un gros beat them all, ça on le savait déjà.
On pouvait s'y attendre, hein. Ça allait pas être un jeu de réflexion.
Mais que voilà, bon, apparemment beaucoup de cassage du quatrième mur, hein, très dans l'esprit Deadpool, beaucoup de caméos aussi de personnages de l'univers Marvel, à chaque fois présentés apparemment selon des petites séquences proches de covers de comic book, etc. Donc on garde vraiment cet aspect comic book pour Deadpool. L'humour est très présent, mais apparemment ça risque d'être un jeu qui s'adresse pas mal aux fans.
Ouais.
Et il a aussi la particularité d'être quand même relativement moche.
Ça,
soyons
oui, c'est
honnêtes,
clair, ouais.
Puisqu'il a été développé sous l'Unreal Engine.
Bah après, ça veut rien dire. Hein. Il y a des jeux en Unreal Engine qui sont très beaux, mais pour l'instant, les images qu'on a vues, ça a l'air pas très très léché au niveau des textures, au niveau des graphismes. Après, si la maniabilité est bonne, si le jeu est fun, pourquoi pas.
Voilà, apparemment, ce sera alternance de gunfight, de combat au corps à corps, au katana. Il y aura même des phases de plateforme en 2D. Alors, bon, en même temps, c'est Deadpool, hein, qui passe son temps à s'adresser aussi aux joueurs, qui a conscience d'être dans le jeu vidéo.
Et beaucoup de scènes fantasmées par Deadpool.
Oui, alors oui, ça aussi. Donc, voilà, on a des scènes où le design va complètement changer, puisque ce sera carrément dans la tête de Deadpool. Ça peut, franchement, voilà, je suis pas sûr qu'ils attirent un nouveau public.
Un jeu qui se finira à 15 € 2 mois plus tard sur Steam.
Peut-être que si voilà. Le film Deadpool avait été réellement fait, il y aurait eu une plus grande attention de la part des acheteurs.
De toute façon, on va pouvoir télécharger le DLC de Ryan Reynolds comme dans Wolverine Origins.
Le truc horrible. On continue avec cette fois-ci une news un peu plus triste. On le savait, le studio THQ est tombé en faillite. Cette semaine ont été annoncés justement comment ils allaient s'en sortir. Ils avaient deux solutions, soit être rachetés d'un coup par un gros consortium, soit vendre les différents studios qu'ils gèrent en petits bouts. Finalement, c'est la deuxième solution qui a été choisie puisqu'ils rapportaient plus d'argent avec la vente de studios par petits bouts. Et les choix sont assez étranges. Notamment déjà puisqu'une des plus grosses licences de THQ qui sont quand même les jeux de catch, on va pas se le nier, hein, les jeux WWE ou TNA, mais principalement WWE veut rentrer énormément d'argent dans les caisses, et ceux-là pour le moment n'ont pas été rachetés.
Ouais,
c'est une licence
à...
qui...
Je pense que c'est une licence qui sera récupérée rapidement quand même.
Bah, il y a de fortes chances que tout le monde planche sur un Electronic Arts qui rachèterait cette franchise, ce qui serait pas étonnant étant donné qu'ils sont maîtres sur les jeux de sport avec les NBA, NFL, NHL.
Bah, surtout sur le basket en fait. Ils sont bons sur tout sauf le basket.
C'est vrai que c'est eux qui quand même gèrent le côté sportif, donc pourquoi pas récupérer WWE, ce serait complètement dans leur ligne, quoi. Mmh. Au niveau des studios par contre, donc on avait le studio Relic Entertainment qui a développé Company of Heroes et Warhammer 40000 qui a été racheté par Sega. Alors pourtant on entendait des rumeurs comme quoi Sega ça n'allait pas.
Ouais, mais en même temps la licence Warhammer ça peut faire plaisir quand même à pas mal de monde, donc puis Sega est assez spécialisé dans les tactical sur PC avec des séries comme Napoléon, Rome et compagnie, enfin des choses assez bien. Donc dans l'univers Warhammer, pourquoi pas.
Donc Sega a racheté ce studio Relic Entertainment pour 26 600 000 dollars quand même. THQ Montréal, donc qui est donc une branche au Canada de THQ, a été racheté, devinez par qui ? Ubisoft.
Ah bah en même temps, ils sont à côté, hein.
Donc, voilà. Alors pour 2 500 000 dollars, pourquoi ? Parce que pour le moment, THQ Montréal n'a rien développé.
Quand ils ont acheté les murs, les gens, je sais pas.
2 500 000 dollars pour une coquille vide.
Ben, pour le moment, en fait, ils n'ont pas vraiment sorti de jeu, quoi. Ils ont des projets, mais ils n'ont pas sorti de jeu.
C'est un peu cher quand même. Hein.
Le plus intéressant, c'est quand même Patrice Desilets qui donc travaillait chez Ubisoft, qui avait notamment travaillé sur Prince of Persia, Sands of Time ou encore Assassin's Creed, mais qui était parti en claquant un peu la porte de chez Ubisoft en 2010. Finalement, va retourner bosser chez Ubisoft. Alors, comment ça va se passer, ça ? C'est un petit peu la question. L'autre studio de THQ, c'était Volition Software, qui avait développé notamment les Saints Row ou les Red Faction, qui a été racheté par Koch Media pour 22 312 925 dollars, très précisément.
Ouais, mais c'était la cash machine de THQ, ça, donc.
Ah oui, sachant qu'on a un Saints Row 4 de prévu déjà, le 3 a excellemment bien marché.
Ouais.
Bon, bah. Voilà, au moins ils sont rachetés, ils vont continuer de développer. Alors, pour le Saints Row 4 qui doit sortir normalement l'année prochaine, il y aura peut-être quelques changements dans la façon de développer, mais ce serait con quand même que Koch Media décide de complètement changer le style du jeu. Il y a peu de chances qu'on se retrouve avec quelque chose de totalement différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Au niveau des licences, par contre, on a la licence du jeu Evolve qui est en développement chez Turtle Rock Studio, qui a été racheté par Take-Two Interactive pour 10 millions de dollars.
Je connais pas ça.
On a Homefront.
Le truc tout pourri. Oui, d'accord.
Dont le 2 doit sortir cette année, hein, d'ici quelques mois, qui a été racheté par Crytek. Alors attention, c'est là que ça devient drôle. Crytek, hein, ceux qui ont fait Crysis, ils ont racheté la licence Homefront pour 544 000 dollars.
Ouais.
Mais en même temps, c'est la preuve que ça vaut que dalle.
Ouais, non, ça valait que dalle. Ouais.
La licence Metro, dont le 2 doit aussi sortir très prochainement, a été rachetée par Koch Media, cette fois-ci pour 5 877 000 dollars. Donc, c'est la preuve avec Homefront que c'est Homefront, tout le monde s'en fout. Et enfin, South Park, le prochain jeu, Le Bâton de la Vérité, a été racheté par Ubisoft pour 3 200 000 dollars quand même.
Ouf, grosse franchise.
J'ai pas compris ce que tu as dit, Sam.
Grosse franchise.
Très grosse franchise. Et puis, heureusement, parce que j'avais un petit peu peur pour le développement du jeu. C'est un jeu qui a l'air juste excellent, un jeu de rôle avec le design. On a l'impression de regarder des épisodes de la série, quoi. Et ça a l'air d'être très drôle. Donc, bon. Au moins, là, on sait que le jeu sortira. Et donc, sous la bannière Ubisoft, maintenant.
Enfin, la plus grosse news pour nous, fans de comics, ça reste quand même le fait que la licence Darksiders n'a pas été rachetée. Alors là, non. Ça devient un petit peu bizarre. Le studio Vigil Games n'a pas été racheté par personne pour le moment. Et donc, y a de fortes chances qu'il ferme s'il n'est pas racheté.
Bah, ça, c'est à cause du non-succès du deuxième épisode qui a quand même pas vendu autant que le premier. Et c'est sans doute une licence qu'on risque de voir disparaître. Ce qui est un petit peu dommage.
J'avancerai moi aussi une autre hypothèse. Le fait que Joe Madureira a annoncé il y a quelques mois qu'il quittait le studio Vigil Games pour repartir faire du comics. Alors, avait-il senti le vent tourner ? Savait-il que THQ avait des problèmes, etc. Ou a-t-il vraiment eu besoin d'arrêter les jeux vidéo pour revenir vers le comics ? Mais est-ce que le perte de Joe Madureira en tant que lead designer de la boîte n'a pas justement fait en sorte que personne ne le rachète ? Voilà, est-ce que...
Bah, ça a dû jouer un petit peu. Le truc, c'est qu'on sait qu'il avait fait normalement du design pour les jeux suivants. Donc, a priori, il y aurait eu du matériel pour quand même sortir un troisième jeu avec ses designs. Mais ça a dû jouer quand même dans le fait que ça intéressait moins les gens, quoi.
Bon, en tout cas, c'est quand même une page de l'histoire du jeu vidéo qui se tourne, parce que THQ, je pense qu'on a tous joué à des jeux THQ à un moment ou un autre de notre vie. Et
Non, mais carrément, quoi.
Voilà, un gros studio qui disparaît comme ça, qui se fait racheter par petits bouts, complètement démantelé. C'est pas brillant, quoi. En tout cas, on sait que certaines franchises restent sauvées, et c'est le principal, on pourra quand même retrouver certains titres, même s'ils ne sont plus distribués par THQ. On va terminer l'émission avec les mails de la semaine dernière qu'on n'avait pas pu traiter par manque de temps. On avait reçu un très long mail de Christophe. Alors je vais pas le lire à l'antenne en entier parce qu'il est quand même extrêmement long, mais il revenait sur ce qu'on avait, les choses dont on avait parlé sur les prévisions 2013 dans le Weekly News 24. Et lui, il parlait, donnait son point de vue en tant que lecteur néophyte, puisque ça le fait à peu près un an qu'il est arrivé dans le comics. Et il expliquait que justement, Le comics s'est beaucoup développé par ce qu'il y a eu autour, et il a attiré beaucoup, enfin en tout cas c'est sa vision à lui, hein, que ce sont surtout les produits dérivés comme les films, par exemple prenons les films de Batman de Burton, le dessin animé des X-Men, la série animée Batman, les Tortues Ninja, Spider-Man, X-Men, tout ça, c'est ce qui ont peut-être attiré beaucoup de public.
Je confirme.
Et que justement, aujourd'hui, on a peut-être un petit peu cette perte d'intérêt vis-à-vis du jeune public, puisqu'on a moins de séries animées, en tout cas moins qui font des gros cartons comme on en avait eu à l'époque pour nous. Autre chose aussi, il explique qu'un gars qui débarque dans le comics, qui a envie de s'y mettre, se retrouve un petit peu perdu, notamment quelle est la différence. Il nous donne quelques exemples, hein. Par exemple, quel Spider-Man acheter, est-ce que X-Force ça ressemble à X-Men, un petit peu perdu devant l'étendue des titres disponibles.
C'est vrai que c'est complexe, mais c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu de conseils, un petit peu de... Il y a des dossiers dans lesquels on explique par où commencer, et il faut pas hésiter à demander aux vendeurs, quoi.
En français, je dirais, on a encore de la chance, parce qu'on a des mags thématiques. Donc si on veut du Spider-Man, mag Spider-Man. Ensuite, c'est plutôt se retrouver dans la continuité du personnage.
Ouais, c'est ça.
Donc là, justement, il nous explique, justement, une émission comme la nôtre lui a permis peut-être de démarrer vraiment dans le comics, de s'y intéresser un peu, mais que bon, au départ, comme quand quelqu'un ne connaît pas du tout, les émissions paraissent un petit peu complexes. C'est vrai que on a pris le parti d'essayer d'expliquer un petit peu, mais on s'adresse quand même à des gens qui s'y connaissent un petit peu, ça c'est certain. Comme il dit, des fois les émissions peuvent ressembler à un petit peu du name dropping, c'est-à-dire un étalage de noms qui parle pas aux néophytes justement. Mais voilà. Il faut essayer de s'accrocher un petit peu, quoi.
Quand j'ai dit que je faisais des podcasts, mes parents ont dû en écouter 2-3. Et bon, ils comprennent pas trop tout ce qu'on disait, quand même. C'est un petit peu compliqué. Quand on arrive là-dedans et qu'on connaît pas, c'est toujours pas évident.
Pareil, ma mère a écouté aussi quelques émissions, mais elle comprenait rien, donc elle a vite lâché l'affaire.
Faut dire, on fait énormément de références à des sagas, à des épisodes particuliers, à des équipes créatives que nous on connaît parce qu'on les côtoie, je dirais, chaque semaine maintenant. Évidemment, quand on arrive, c'est plus dur, quoi.
Voilà. Je vais lire un petit passage parce que c'est un petit passage qui est intéressant. Le principal souci est qu'il faut se lancer au bon moment quand on est un nouveau lecteur, hein, bien sûr, toujours. Un connaisseur sait quand un arc se termine, sait quand un arc commence, quand il y a un relaunch, un reboot, un remake. Il sait quand c'est idéal pour un noob pour s'y mettre. Mais le noob, lui, ne le sait pas car il ne suit pas l'actualité comics. Puisque, normal, il s'y intéresse pas au départ. Voilà. Et donc, du coup, il faut se lancer à l'aveuglette. Acheter une parution kiosque qui porte le numéro 1 et espérer lire de la qualité. Problème, 9 fois sur 10, nous lisons un arc nouveau, certes, mais qui demande à connaître 10 voire 20 protagonistes de l'arc précédent, voire de l'univers tout court. Il arrive aussi que le mag contienne 3 titres. Le premier débute un nouvel arc, mais les deux autres se poursuivront tranquillement sans résumé de l'intrigue. Effectivement, ça peut être quelque chose de difficile. Il explique que lui, il a commencé par Fear Itself.
Mon pauvre.
Comme il nous met dans le net, monumentale erreur, je sais, mais il fait que le vous en numéro 1, chose assez rare pour être une occasion immanquable. Avant que cette expérience de Fear Itself, j'aurais très bien pu abandonner la suite, de suite le comics, et me dire que les films sont meilleurs. Mais du coup, il avait quand même continué, et aujourd'hui, il a découvert des choses, il le dit, grâce à nous, mais aussi grâce à d'autres recherches qu'il a pu faire. Et voilà, enfin en tout cas, c'était un long mail très intéressant. S'il nous le permet, je le publierai peut-être, s'il peut nous envoyer une petite réponse pour que tout le monde puisse le lire, parce que c'est vrai que là, il est beaucoup trop long pour qu'on puisse se permettre de pouvoir le lire à l'antenne. Il fait 3 pages, honnêtement, donc oui, voilà.
C'est juste ou alors, c'est comme disait Bunny, ce serait un remake de Au bout de la nuit sur Direct 8, quoi. Donc, serait un peu long.
Ah, le podcast qui vous faisait à faire dodo. Je sais pas si c'est franchement un bon argument de vente.
Ouais, pas vraiment.
On a reçu aussi un autre mail de Cerveau, qui celui-ci est beaucoup plus court, donc je vais pouvoir me permettre de le lire. En fait, voilà, c'est une petite réponse après les fêtes. Il nous avait envoyé un mail juste avant qu'on fasse notre petit break estival pour ces fêtes de fin d'année, et il revient là-dessus. Il fait « Je suis surpris et content que vous ayez cité mon mail, merci. Mes excuses à Kinghead, par contre, je ne voulais pas parler de déficience mentale, mais plutôt de son regard non blasé, éclectique et donc agréable dans un podcast. » Non, mais
je suis un peu blasé. Mais j'avoue, j'avais pas appris ça comme étant de la déficience mentale, t'inquiète pas, Cerveau.
Candide,
mais
c'est le gars, ça fait plaisir de lire la suite. Candide veut simplement dire un petit peu, voilà, le nouvel arrivant, celui qui voit que tout est beau, tout est, voilà,
ouais, tout brille,
tout, tout le monde est gentil, ouais, voilà, c'est ça. Il parle aussi de Comics Blog parce que peut-être a-t-il eu l'impression que ça avait été pris comme un bâche. Il nous dit, parlons de Comics Blog, dont je respecte la passion commune pour les comics, j'ai appris qu'ils allaient faire un numéro avec le podcast de l'apéro du Capitaine. Ce serait énorme si l'un de vous pouvait s'y rendre aussi, et une manière pour Kinghead de prouver qu'il n'a rien de candide. Alors déjà, on n'est pas sur Paris, nous, donc c'est toujours plus difficile. Et puis, ouais. Et puis bon, bah, on a d'autres projets en cours, donc voilà, c'est pas forcément des choses qui nous paraissent faisables pour le moment.
Ouais. Et pour ma part, je connais pas ce podcast. J'ai jamais écouté. Donc.
L'apéro du Capitaine, ça vaut le coup d'être écouté. Franchement, c'est vraiment
un truc
super taré et on se marre bien. Quoi. Il nous dit, je subis avec X en VF en ce moment et je rejoins Sab. Cyclops was right. Aller embêter des Summers quand le Phoenix se pointe est juste l'idée la plus stupide du Marvelverse. J'ai mal à mes X-Men et drapeau américain man m'insupporte. Grant Morrison revient, dédicace affectueuse à venir.
Oui, voilà. Bah, je t'aime beaucoup, Cerveau.
Voilà, <ouais.
rire> Donc voilà, bah, on a lu ton mail, Cerveau. Ça nous fait toujours très plaisir de recevoir des petits mails comme ça, et même des petits mails qui répondent à d'autres mails d'avant.
Ça nous fait surtout quand ils sont d'accord avec moi. C'est très agréable.
Ah, bah toujours. Hein.
En tout cas, voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, honnêtement, je ne sais pas à l'heure actuelle s'il y aura une émission la semaine prochaine, puisqu'on sera de retour d'Angoulême. Ça va être difficile. Ouais. On va essayer, mais pas de certitude. Donc, peut-être qu'il n'y aura un Weekly News que dans 2 semaines, du coup. En tout cas, chose est sûre, nous reviendrons pas jeudi de cette semaine, mais jeudi prochain pour le Comics Weekly, avec les sorties VO de la semaine. Et puis, on vous prépare une petite émission spéciale à Angoulême dès qu'on peut enregistrer ça. Ouais. Et surtout, vous l'uploader, parce que c'est le problème, c'est pas de l'enregistrer, c'est de la mettre en ligne.
Et donc, ouais, on sera quelques-uns à Angoulême. Donc, si jamais vous nous croisez, vous nous reconnaissez, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous dire un petit coucou.
Ouais. On vous signera des autographes en grande star que nous sommes. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine et n'hésitez pas comme d'habitude à la semaine prochaine peut-être, et n'hésitez pas comme d'habitude à réagir dans les commentaires, à nous faire part de vos avis sur les différents sujets que l'on a traités cette fois-ci. Comme toujours, entre temps, vous avez le Facebook, le Twitter, et puis bien sûr vous retrouvez tous les anciens oh là là, à vouloir aller trop vite, voilà ce qui se passe, on bafouille, tous les anciens épisodes sur le site et sur iTunes. On se dit donc à très bientôt, et comme d'habitude,
à bientôt.
Passez un bon moment.
Ouais, à plus les gens.